Chapitre 23. Le maquilleur était occupé par un défunt au sous-sol. L'assistant de Gilberto et son apprenti avaient conduit au cimetière le mort exposé la veille, en prévision de la cérémonie d'inhumation. Et aucune autre dépouille ne serait présentée aux familles avant la fin de journée, si bien que l'endroit baignait dans un silence mortuaire. Après avoir débarrassé Hendrickson de sa veste et de son holster, Jane et Gilberto le sanglèrent sur la civière servant à transporter les cadavres et le poussèrent à l'intérieur du bâtiment avant de le monter tant bien que mal à l'étage, dans le logement familial de l'ancien marine. Le mobilier moderne et minimaliste de l'appartement contrastait avec l'atmosphère pesante du rez-de-chaussée, avec ses moulures, ses épais rideaux de velours, ses meubles néo-gothiques. Quel effet ça fait de vivre au milieu des morts ? Demanda Jane à son compagnon.
Rien de spécial, répondit Gilberto. Sauf qu'on a conscience de la mort en permanence. Nous sommes tous des défunts en sursis, mais la plupart des gens évitent d'y penser.
Tes filles ne font jamais de cauchemars ?
Si, mais elles ne rêvent pas de cadavres.
Elle le laissa dans la cuisine en compagnie de leur prisonnier et retourna chercher son cabas, l'attaché case et le récipient MedExpress. À son retour, elle constata que Gilberto avait réglé la civière de sorte que Hendrickson soit penché à 45 degrés au lieu d'être allongé à l'horizontale.
Dans le métier, on n'a pas besoin de ce genre de gadget, remarqua Gilberto. Mais ils fabriquent essentiellement des civières pour les vivants et elles sont toutes réglables en hauteur. J'ai pensé que ça te faciliterait la tâche.
Elle prit le pouls de Bousse sans lui retirer pour autant le bandana rouge. Gilberto en profita pour préparer du café bien noir avant de remplir deux mugs sans y ajouter de sucre. Une tarte à la ricotta, préparée par Carmela, refroidissait sur une grille. Jane s'en servit une bonne part qui lui ferait office de déjeuner, tandis que Gilberto s'isolait dans la pièce voisine afin de téléphoner à sa femme. Le temps que Jane avale sa dernière bouchée de tarte, Hendrickson reprenait lentement connaissance, en marmonnant des paroles inintelligibles. Elle passa à l'eau son assiette et sa fourchette, se resservit du café et retira le foulard qui dissimulait le visage du prisonnier. Il était encore entre deux eaux lorsque ses paupières s'écartèrent sur des yeux vert pâle. Il ne s'était pas encore aperçu qu'il était sanglé à la civière. C'est tout juste s'il devait se rappeler qui il était. Il adressa un sourire endormi à Jane en l'apercevant.
« Salut, sexy !»
lui dit-il d'une voix respirant la béatitude.
« Salut !»« Ta jolie petite bouche me donne des idées. »
« Je n'en doute pas, mon grand. »
« Approche-toi donc un peu. »
Pour toute réponse, Jane passa une langue enjôleuse sur ses lèvres.
« Oncle Ira n'est pas Oncle Ira, » déclara Bousse.
« Alors qui est-ce ? » Hendrickson lui adressa un soupir supérieur.
« Non, ce n'est pas la bonne réponse. »
Quelle est la bonne réponse, mon grand ?
Tu es censé répondre « Oui, c'est vrai. »
« Oui, c'est vrai, » répéta-t-elle.
« Fais-moi une gâterie, ma beauté. »
Elle lui envoya un baiser aérien.
« C'est drôle, » dit-il en riant doucement avant de retomber en léthargie.
Lorsqu'il écarta à nouveau les paupières 30 secondes plus tard, son regard était moins trouble, mais il n'avait toujours pas conscience du danger.
Je suis sûre qu'on s'est déjà vu.
Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire?
Je suis tout oui.
Tes petits copains ont tué mon mari. Ils m'ont ensuite menacé de violer et tuer mon petit garçon. Et ils cherchent à avoir ma peau depuis des mois.
Le sourire de Hendrickson s'effaça lentement.